Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous sommes au deuxième jour de notre séminaire sur le fait que la Bible est la parole de Dieu. Hier, nous avons donné des raisons de croire que la Bible était la parole de Dieu, comme on l'a dit, sans vouloir prouver. Seul le Saint-Esprit dans le cœur peut appuyer, peut confirmer, peut faire accepter que la Bible est la parole de Dieu d'une manière totale. Nous nous donnons des éléments qui vont donner la force à ceux qui croient déjà et qui peuvent convaincre ceux qui ne croient pas encore. Nous avons expliqué que la parole de Dieu, c'était Dieu qui s'exprime. Il exprime ses projets, il exprime ce qu'il est, il exprime l'avenir. Il exprime comment l'homme peut être dans le bonheur. C'est Dieu qui s'exprime. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est finalement lui-même. Et cette parole que Dieu a commencé à exprimer, il a voulu l'exprimer aussi aux humains. Et en exprimant aux humains, donc il a employé un langage des hommes, la parole, telle que les hommes parlent. Ensuite, pour la transmission de cette parole, de génération en génération, Dieu a décidé que ça se fasse par écrit. Les écrits pouvaient rester. De sorte que ces écrits-là sont aussi la parole de Dieu. Donc on a expliqué que la parole, c'était une expression. Donc on ne pouvait pas s'exprimer seulement par un seul langage. Donc on peut dire « assis-toi », on peut le dire en chinois, on peut le dire en hébreu, on peut le dire aussi par des signes. On peut le dire aussi par des codes. Donc on peut dire la même chose de plusieurs manières. Donc ce n'est pas le mode, la méthode, la manière qui compte, c'est la chose qu'on veut dire, qu'on dit qui compte. Est-ce qu'on a compris, est-ce qu'on reçoit cela? Et donc la parole de Dieu, elle est vivante, elle est réelle, mais elle peut être exprimée par la parole, par le langage humain, elle peut être aussi écrite. Et nous avons démontré comment comment la Bible a été écrite et donné des arguments pour montrer que ces écritures-là que constitue la Bible, c'était la parole de Dieu. Ce n'est pas une expression de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu elle-même, c'est la forme écrite que Dieu a voulu dès le départ, parce que lui-même, Dieu a commencé par écrire sur les tables de la loi. Donc on a senti dans les versets de l'Ancien Testament la volonté de Dieu que les choses se fassent par écrit afin d'assurer une transmission stable et sûre. Parce qu'on peut toujours parler et puis qu'il y ait après des polémiques et des contradictions, on ne sait plus qui a dit quoi. Mais quand c'est écrit, c'est fixé et c'est stable. Et on peut vérifier. On a expliqué ces choses-là hier. Et aujourd'hui, nous voulons parler des attaques contre la Bible. Des attaques contre la Bible, parce que ce sont des attaques qu'un chrétien qui est actif rencontrera. Mais le chrétien non actif aussi rencontrera ces attaques. D'ailleurs, ça peut même contribuer à l'amener à sa mort spirituelle. Donc, nous devons apprendre qu'il y a des attaques contre la Bible et savoir comment contrer ces attaques. Comme c'est écrit dans Tite 1:9, on doit savoir réfuter les contradicteurs. Nous allons lire notre verset de base, 1 Thessaloniciens 2:13. Qu'on a encore chanté tout à l'heure, et puis lire ensuite le verset d'amour pour la parole pour aujourd'hui, 1 Thessaloniciens 2:13. La Bible dit, c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu continuellement de ce qu'en recevant la parole que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Paul est clair. La parole que lui avait prêchée, ce n'était pas sa parole à lui, mais la parole de Dieu, clairement. Donc les écrits que nous lisons, c'est la parole de Dieu directement. Alors pour gagner du temps, parce qu'après il y a un temps de questions-réponses, je passe directement à citer les attaques. Il y a deux formes d'attaques. Il y a les attaques que je nommerai simples. Simples pas dans leur gravité, simples dans leur discernement. Je pourrais même dire simplistes. Des attaques brutes, en quelque sorte, qu'on peut voir rapidement, facilement. Et puis il y a des attaques sournoises. Et entre les deux, les deux attaques sont des vrais combats pour un chrétien, mais les attaques sournoises sont les plus dangereuses, parce que sournois, c'est caché. Il y a la malice, il y a la ruse dans ce qui est sournois. Et c'est pas pour rien qu'on l'ennemi, Satan, s'appelle aussi le diable. Diabolos veut dire menteur. Une de ses grandes forces, peut-être même la plus grande, c'est qu'il a la capacité de masquer les choses, la capacité de se déguiser, la capacité de mentir d'une manière extraordinaire. Et c'est comme ça qu'il gagne en général ses combats. Et nous allons commencer par les attaques simples. Et en parlant des attaques simples, afin de ne pas oublier, je mettrai la conclusion suivante. Si on a tant attaqué la Bible, donc les attaques simples, la destruction par le feu, la tuerie des chrétiens, dans les premiers temps, alors comprends que à ton temps aussi, on attaque la Bible de la même manière, mais pas forcément avec les mêmes méthodes, mais avec la même intensité. Parce que le diable n'a pas changé. Si le même diable a attaqué clairement comme ça, et on va citer ses attaques simplistes, ses attaques brutes, eh bien, il continue à faire le même travail, avec la même intensité, mais avec des formes différentes en fonction de l'évolution des sociétés. Alors, quelles sont ces attaques simples, brutes? Dès qu'il y a eu les premiers chrétiens, dès qu'ils ont commencé à prêcher à gauche, à droite, leurs prédications contredisant les pratiques occultes de l'époque, notamment romaine, eh bien, les chrétiens, été combattus par l'Empire romain de l'époque. Et qu'est-ce qui était visé? C'est vrai qu'au début, il n'y avait pas encore les écrits du Nouveau Testament, mais il y avait déjà les écrits de l'Ancien Testament. Ce qui était visé particulièrement au début, c'était les chrétiens eux-mêmes qui allaient de région en région parlant de la part de Dieu. Donc les apôtres, nous connaissons les histoires. Pierre a été emprisonné. Paul a été emprisonné. Donc on emprisonnait tous les prédicateurs qui, en quelque sorte, par leur prédication, ils détruisaient les œuvres des démons de l'époque. Et comme ces démons dirigeaient les gouvernants, eh bien, les gouvernants étaient leurs serviteurs pour arrêter la parole de Dieu qui sortait de la bouche des chrétiens par des emprisonnements, par des tueries et par la destruction. Plus tard, donc avec les années, il y a eu les écrits chrétiens. Donc on visait non seulement les humains, mais on visait les écrits parce que ces écrits-là se répandaient de région à région. Et donc, les Bibles ont été, ou bien disons les écrits ont été détruits en grande quantité. Lorsqu'on attrapait un chrétien, on le tuait lui-même, on détruisait aussi les livres, les écrits qu'il pouvait avoir concernant la parole de Dieu. Et nous avons connu le maximum de tout cela quand il y a eu le catholicisme. Nous savons que le catholicisme est né dans la collaboration entre les dirigeants chrétiens de l'époque et le gouvernement de l'époque. Il y a eu fusion, et de cette fusion-là, État, religion, est né le catholicisme, qui dirigeait tous les niveaux de la vie humaine, tous les domaines de la vie humaine en Europe et par la suite dans d'autres pays. Et pendant 1000 ans, le catholicisme a régné. Comme le catholicisme avait des doctrines, des positions qui étaient contraires à la Bible, à chaque fois, les vrais chrétiens voulaient sortir avec la vraie position biblique. Ils étaient liés, emprisonnés, tués et on détruisait leur Bible. Ce qu'on appelle des autodafés. Donc, on brûlait leur Bible. Et l'apogée de cela, c'était à l'époque où il y a eu la réforme protestante. C'est là qu'il y a eu des massacres en grande quantité. Nous, ceux qui ont lu un peu d'histoire ont entendu parler de l'Inquisition. Donc, c'était le tribunal décidé par le pape pour éliminer tous ceux qui pourraient utiliser la Bible pour contrer la logique et les doctrines catholiques. Donc l'Inquisition a sévi, on t'a attrapé, on te confisquait tes biens, on t'a mené en prison, on détruisait les Bibles, on brûlait les Bibles en grande quantité. En grande quantité. Alors, moi, ma question que j'ai posée il y a 5 minutes, je la repose. Pourquoi cet acharnement contre la Bible, contre les écrits du Seigneur? Pourquoi depuis 1000 ans, elles ont été combattues comme ça, ces écritures? Parce que le diable voyait le danger pour lui dans ces écrits. Souvenons-nous comment Jésus-Christ a vaincu le diable lors de la tentation dans Luc 4 et dans Matthieu 4, en utilisant les Écritures. Le diable sait que les Écritures, c'est la parole de Dieu et c'est sa grosse défaite. Avec la parole, nous pouvons le vaincre. Apocalypse 12, 11 nous dit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Alors l'ennemi va tout faire pour qu'on néglige la parole, parce qu'il sait que sa défaite se trouve dans la parole. Il va tout faire, c'est pourquoi il tuait les chrétiens autant, c'est pourquoi il détruisait les Bibles. Parce que si les écrits bibliques n'avaient pas de valeur, pourquoi l'ennemi s'employait à les détruire? Parce qu'il savait que sa défaite était là. Qu'est-ce qu'un ennemi? Vous savez, les gens qui ont... Vous avez déjà vu des guerres. Qu'est-ce qu'une armée va chercher à détruire dans le camp adverse, là où se trouve le centre le plus dangereux? Il va chercher à détruire l'aviation adverse, il va chercher à détruire les navires de guerre adverses, il va chercher à détruire les centres de commandement adverses, parce que c'est les endroits les plus dangereux. C'est ça qu'une armée va chercher à détruire. Et l'ennemi a cherché à détruire au maximum tous les écrits véritables. Est-ce que vous avez déjà entendu parler qu'il y a un mouvement de destruction des livres de Bouddha? Par le feu? Vous avez déjà entendu parler de ça? Jamais. Hein? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des mouvements de destruction du Coran quelque part? Ou bien des mouvements de destruction du prince de Machiavel? Non. Ou des livres de Voltaire? Non. Mais vous entendez toujours les destructions de la Bible. On brûle la Bible, on détruit la Bible à gauche, à droite. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. En Chine, dans les pays islamiques, la Bible est détruite. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que c'est ça son problème. C'est la parole de Dieu. Alors, pense-y, frère ou sœur, si l'ennemi s'emploie à brûler comme ça les Bibles, à tuer les chrétiens qui prêchent la Bible, penses-tu que en France, Satan a changé, il serait plus doux qu'ailleurs? Non, il n'a pas changé. Aux États-Unis, Satan serait-il plus doux qu'ailleurs? Non. Le contexte n'est pas le même. mais l'ennemi est le même. Donc il va changer de moyen de faire. C'est là qu'on va arriver aux attaques sournoises. Nous sommes toujours dans les attaques brutes. Dans les attaques brutes, nous voyons les interdictions. Dans les années 50, dans les années 30, dans les pays de l'Est, dans les années même 60-70, dans certains pays de l'Est, il était interdit d'avoir une Bible. Aujourd'hui, en Algérie, si on te trouve avec deux Bibles, on t'arrête. Donc, si tu es chrétien, tu dois te promener qu'avec une seule Bible. C'est ce que j'appelle les attaques simples, les attaques simplistes, les attaques brutes. Donc, on voit tout de suite que là, il y a un problème. C'est simple à constater. En Russie, en Chine, en Roumanie à l'époque, dans tous les pays de l'Est, il était interdit, la Bible était interdite. C'était des attaques directes, des attaques brutes. Il y avait l'interdiction, il y avait aussi les attaques simples, j'appelle ça des attaques simples, les attaques qui voulaient se baser sur peut-être des erreurs de copistes pour dire « mais la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, il manque S à tel endroit ». Il manque O à tel endroit. J'appelle ça des attaques trop simples, trop simplistes. Et mais ça a existé pour freiner les chrétiens. Destruction, persécution, emprisonnement, interdiction. Quand vous allez dans certains pays aujourd'hui, ça continue toujours ces attaques brutes. Parce que la configuration de ces pays-là permet ce genre d'attaque. Mais là où il y a une configuration différente, un contexte différent, eh bien, les attaques ont la même intensité, mais changent de forme. C'est ce que je vais appeler les attaques sournoises. Donc, nous allons nous attarder sur les attaques sournoises, parce que les attaques simplistes, les attaques brutes, tout le monde peut les voir directement. Mais les attaques brutes ont l'avantage de nous faire comprendre, tiens, ma Bible est importante parce que si on l'interdit comme ça, donc c'est qu'il y a quelque chose. Si on veut me détruire, parce qu'il y a des endroits où on te dit, ben, monsieur, on peut vous libérer si vous arrêtez de lire la Bible. Donc si on en veut tant, autant à la Bible, tiens, c'est qu'il y a quelque chose là. Si on détruit tant les Bibles, si on les interdit autant, les attaques brutes ont cet avantage-là de nous apprendre cette leçon-là, de nous apprendre qu'on a quelque chose de précieux. C'est pourquoi on en veut autant à ça. Parce que les attaques sournoises, comme elles sont sournoises, elles ne te donnent pas l'impression d'être des attaques. Donc c'est pourquoi non, tu n'as pas la réflexion pour dire « mais on en veut à la Bible ». Mais aujourd'hui, le but de l'enseignement, c'est de nous montrer que les attaques sournoises sont les plus dangereuses et elles en veulent aussi à la Bible, plus gravement que les attaques directes, avec plutôt la même gravité. Mais heureusement, il y a eu ces attaques-là, directes, qui nous apprennent aujourd'hui, tiens, ma Bible est une arme terrible. Parce que c'est ce que le diable veut attaquer en premier, la Bible. Et nous passons maintenant aux attaques sournoise, que je peux appeler aussi indirecte. Nous commençons de la part des païens. Ces attaques indirectes, sournoises de la part des païens. Alors, les païens, comme on l'a dit aussi hier, vont commencer par dire, mais non, mais il n'y a pas de preuve scientifique de ce que la Bible dit. Et donc, hier, on a expliqué qu'au contraire, l'archéologie, c'est-à-dire les fouilles des vestiges, des monuments, des bâtiments anciens, des villes anciennes, ces fouilles-là, au contraire, ne font que confirmer ce que la Bible dit. Et ceux qui ont une Bible Thomson, par exemple, la Bible Thomson, vous avez un module à la fin concernant l'archéologie biblique. Vous allez au contraire être étonné comment l'archéologie confirme la Bible. Ils disent, mais ce que la Bible dit n'est pas scientifique, la terre ne peut pas être créée en 7 jours. Nous, on a fait des calculs, ça fait des milliards. Moi, je pose toujours la question, mais si Moïse a sorti un serpent en une seconde. Si on devait calculer l'âge de ces serpents, est-ce qu'on va trouver une seconde avec nos appareils d'aujourd'hui? On ne trouvera pas une seconde. On trouvera l'âge d'un serpent de cette taille-là. Parce qu'il y a un système de calcul de l'âge que nous avons aujourd'hui dû à la progression, à notre façon d'observer la progression dans le temps des objets. On a des calculs, par exemple, pour calculer l'âge d'un arbre, on a un système de calcul. On calcule le nombre de cercles concentriques sur le tronc de l'arbre. Donc, un arbre qui va sortir, l'arbre de Jonas, qui est sorti en un jour, si on devait calculer son âge, on allait calculer le nombre de cercles concentriques, c'est sûr qu'il en avait déjà un certain nombre. On allait trouver une certaine longueur de temps qui serait bien différente d'une seconde parce qu'elle est sortie d'un coup, en un jour, instantanément. Tout cela pour dire quoi? Nous parlons d'un Dieu tout-puissant. C'est que les hommes peuvent mesurer en milliards d'années ou en millions d'années, Dieu peut créer ça en une seconde parce qu'il est tout-puissant. C'est ce que veut dire même sa nature. Il est tout-puissant. Souvenez-vous, je vous avais dit que la parole, c'est l'expression de quelqu'un, l'expression aussi de ses capacités. Si la parole dit que Dieu a fait ça en 7 jours, donc ça prouve même son nom, El Shaddai, Dieu tout-puissant. Ce n'est pas en contradiction. Ça prouve que ce que vous, les humains, vous pouvez observer en milliards, moi, je peux faire ça en 7 jours. Voilà ma capacité que je vous transmets, dont je vous parle dans ma parole. Il n'y a aucune contradiction. La science ne contredit pas la Bible. Au contraire, la science, dans ses échecs, confirme vraiment la Bible. Parce que dernièrement, on avait calculé l'âge d'un crabe vivant, on avait trouvé 200 millions d'années. Donc, on voit bien que les méthodes de la science ne sont pas non plus à 100% véritables. Un crabe vivant, donc on ne peut pas trouver des millions d'années de vie quand même, d'existence. Donc, ce crabe-là ne peut... ça devait être un calamar, mais il ne peut pas dépasser 20 ans, 30 ans. Mais on a trouvé 200 millions d'années. Les méthodes de calcul humaines sont liées aux limites humaines d'observation. Dieu, comme nous voyons dans la Bible, a la capacité de faire des choses plus rapidement que l'homme, de loin. Nous avons un autre exemple. Lorsque Jésus multiplie les pains, si on calcule l'âge d'un pain que Jésus avait multiplié, on allait trouver quel âge? On allait trouver l'âge d'un pain de cette dimension-là, que tout ce qu'il faut pour préparer un pain. Mais Jésus l'a fait instantanément. Jésus a marché sur les eaux. Est-ce que scientifiquement c'est possible? Ce n'est pas possible scientifiquement. Sinon, il y a beaucoup qui l'auraient déjà fait. Scientifiquement, c'est impossible de marcher sur l'eau. Mais Jésus a marché sur les eaux. Jésus a dit à la tempête, silence. La tempête s'est arrêtée. Aujourd'hui, avec tous les avions que nous avons, tous les maçons, toutes les techniques d'architecture que nous avons, on peut tout faire mettre le temps de construire un mur pour arrêter le vent, le mur lui-même, il est renversé. Quoi. Toi-même qui construis, tu es renversé. Donc, mais Jésus a dit seulement silence, la tempête s'est calmée. On a vu comment les tsunamis font les dégâts. Jésus a arrêté ça en disant silence. Donc, contredire Dieu par la science, c'est une erreur dès le départ parce que vous êtes en train de parler de deux, vous êtes en train de mettre en compétition deux mondes qui n'ont pas les mêmes règles. Dieu est tout-puissant, il n'est pas dans le temps. Lui, il est dans l'instantané. Les humains sont dans le temps. Donc, c'est déjà une incompréhension. La vraie science, au contraire, confirme la puissance de Dieu. Quand on creuse dans la science, on se rend compte que il y a quelqu'un d'intelligent qui a fait tout ce que nous voyons. Parce que dès la plus petite bactérie, il y a la complexité. Les gens ont monté des théories. Et je vais en venir. Donc, deuxième point sur les païens. Attaque contre la Bible. C'est la théorie de l'évolution. Ils ont monté des théories comme quoi les choses se sont transformées tout seules jusqu'à ce qu'on devienne homme. Ça a commencé par une pierre qui s'est cassée, Big Bang. Ça s'est rassemblé dans le temps, ça a formé des planètes. Après, les atomes se sont rassemblés pour former des molécules. Ensuite, ça s'est rassemblé et ça a fait une bactérie. Mais bien aimé, moi je dis simplement, bon, puisque tout cela, nous avons été créés comme ça fortuitement, bon, créons qu'il y ait des lingots d'or aussi qui se créent tout seuls, comme ça on va devenir riche. C'est trop facile de dire n'importe quoi comme ça en disant que nous les humains, nous venons de la construction des bactéries qui elles-mêmes viennent de la construction des atomes, tout seuls. Tout seuls. Déjà pour une voiture Renault, que ça vienne tout seul, c'est hyper compliqué. Tu peux toujours rester chez toi pendant 1000 ans, si on te donnait 1000 ans de vie, que tu attends qu'une voiture Renault apparaisse devant toi toute seule, tu vas attendre très longtemps. Alors comment un homme qui est beaucoup plus compliqué qu'une voiture de loin peut venir tout seul? Un arbre venir tout seul? C'est absurde. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire, ben tiens, la science contredit la Bible. Non, au contraire, la science confirme la Bible. Beaucoup des choses que la Bible a dites sont confirmées aujourd'hui par des scientifiques qui sortent de ce qui est communément accepté pour aller chercher plus loin. On se rend compte que les méthodes de calcul des aires géologiques n'étaient pas bonnes. Il y a des chercheurs américains qui ont montré que comment on devait calculer les aires, enfin l'âge de la Terre, et dans leur calcul, ils trouvent l'âge que la Bible donne. Hein. La Bible parle de tout cela. La Bible parle des dinosaures. Dans Job 40, on parle de Behemoth. C'est un animal, lorsque vous voyez sa description, ça ressemble à un dinosaure. Parce que les gens disent, mais oui, mais la Bible ne parle pas des dinosaures. Pourtant, on trouve quand même des squelettes des dinosaures. Vous n'allez pas dire qu'ils n'ont pas existé. Si la Bible parle, lisez Job 40, vous allez lire en ce qui concerne un animal qu'on appelle le Behemoth. Mais dans vos Bibles, on l'appelle hippopotame, mais ce n'est pas ça le nom original. Le nom original, c'est Behemoth. Mais c'est le traducteur qui a mis hippopotame parce que dans son idée, il a voulu quelque chose qui ressemble aux animaux qu'il voit aujourd'hui. Mais la queue de cet animal, ce n'est certainement pas la queue d'un hippopotame, parce que la queue d'un hippopotame, c'est très très petit, alors que la queue du Behemoth qui est citée dans Job 40, c'est immense, tel qu'on en parle. Ce n'est qu'une question d'honnêteté et d'humilité pour comprendre que la science et la Bible, il n'y a pas de contradiction. Quand je parle de la science, je parle de la vraie science. La science honnête. Pas la science qui n'en est pas une, comme l'évolutionnisme. Ce n'est pas une science. C'est une théorie, c'est une hypothèse. Mais on veut la faire passer comme si c'était scientifique. Donc la science, c'est quelque chose qui naît d'une observation, d'une expérience qu'on peut renouveler. Mais quelque chose, avec des preuves bien sûr, quelque chose dont on n'a pas les preuves, qui ne naît pas d'une expérience qu'on peut renouveler, ce n'est pas de la science, c'est une hypothèse. Donc on ne peut pas revenir on n'a pas aujourd'hui la cassette de la création du monde pour dire que c'était une pierre, le Big Bang qui a créé ça. Donc il n'y a pas de preuves, donc on ne peut pas appeler ça science, c'est de l'hypothèse. La science va dire, par exemple, lorsque tu fais tomber une pierre à telle distance, eh bien, elle va atteindre le sol à telle vitesse. Eh bien, tu essaies de faire tomber les pierres partout où tu veux, ça va faire toujours la même chose. Donc, c'est quelque chose qu'on peut revoir, c'est une expérience qu'on peut refaire. Là, c'est de la science. Donc, on peut retrouver ce qu'on dit par des expérimentations. Mais tout ce qu'on ne peut pas retrouver, c'est des hypothèses. C'est des suppositions. Et donc l'évolutionnisme est une hypothèse, mais une mauvaise hypothèse, donc très mauvaise, qui prétend que l'homme vient, entre autres, du singe. Et moi, quand j'observe les bébés, je dis qu'on finira par dire que l'homme vient de l'éléphant, parce que les bébés cherchent à tout prendre par la bouche. Alors donc, un jour, on nous sortira une nouvelle théorie comme quoi en réalité l'homme venait de l'éléphant parce que les bébés cherchent à tout prendre par la bouche. Or, l'éléphant prend tout avec sa trompe. Voilà. Donc, c'est complètement faux. La Bible dit que l'homme vient de Dieu et a été créé à l'image de Dieu. Et c'est ce qui est beaucoup plus logique lorsqu'on voit l'intelligence que l'homme a. C'est ça qui est beaucoup plus logique. Et moi, un bon conseil que je donne aux gens qui croient qu'ils viennent du singe, c'est aller voir leurs grands-parents dans les arbres et dans les forêts et vivre avec eux, leur donner les vêtements ou bien, enfin, discuter, quoi, et si ça va passer. Et deuxièmement, comment peut-il y avoir, on peut dire que nous venons du singe, et quand on dit, mais oui, mais où sont les êtres intermédiaires? Ah oui, mais la sélection naturelle fait que les êtres qui viennent après détruisent le premier. D'accord. Donc, nous, les humains d'aujourd'hui, on aurait détruit les êtres qui nous précédaient. Bon, d'accord. Les êtres qui nous précédaient ont détruit ceux qui les précédaient. Donc, nous venons, en quelque sorte, nous sommes considérés comme les Homo sapiens. Avant les Homo sapiens, il y avait l'homme du Cro-Magnon, et nous, on a détruit l'homme du Cro-Magnon. L'homme du Cro-Magnon a détruit l'homme de Néandertal. Bon, donc finalement, l'homme qui est venu après les singes devait détruire aussi les singes. Comment se fait-il qu'il y a le singe qui est le plus faible de la chaîne? Il y a l'homme d'aujourd'hui qui est le plus fort de la chaîne, mais il n'y a pas les intermédiaires. Mais il fallait qu'il n'y ait pas le plus faible. Bien aimé, c'est rigolo tout ça. Mais on ne va pas passer notre temps à briser cette fausse théorie de l'évolutionnisme. Nous continuons sur les attaques sournoises. Des attaques sournoises, c'est tout ce qu'on peut échafauder comme fausse vérité découverte qui contredisent la Bible. Comme on va apprendre, on a trouvé un tombeau avec un certain Jésus qui avait des enfants. Des fausses nouvelles de ce genre-là. Ce sont des attaques sournoises. Et il y a des gens qui, juste parce qu'ils ont écouté ça à la télé, ils peuvent être déstabilisés. Il y a des gens qui peuvent, juste parce qu'ils ont entendu un journaliste en parler, considérer que c'est vrai. Or, beaucoup de choses passent par les journalistes qui sont clairement fausses. Mais nous, les chrétiens, et beaucoup des humains sont plus rapides à croire aux mensonges qu'à la vérité. C'est ça le problème. Jésus aurait eu des enfants avec une femme. Bon, maintenant, vous vous imaginez qu'il y a eu Pierre, il y a eu Jean, il y a eu Marc. Tous, ils montrent comment il a été seul. Et donc, maintenant, c'est des gens d'aujourd'hui qui vont nous prouver qu'il a eu des enfants avec une femme bien-aimée. C'est rigolo tout ça. Moi, je dis, ces gens-là, ils combattent dans le vent. Ils se battent contre le vent. Parce que moi, aujourd'hui, si on me dit, tiens, il y a un éléphant dans la salle, je ne vais pas commencer à expliquer qu'il n'y a pas d'éléphant dans la salle. Il n'y en a pas. Bon, si on me dit, il est devant toi, ben, je vais passer tout simplement. Parce que c'est faux, il n'y a pas d'éléphant dans cette salle. Pourquoi chercher à faire des recherches pour démontrer qu'il n'y a pas d'éléphant? Je continue ma vie. Les gens se rendront bien compte qu'il n'y a pas d'éléphant. C'est clair. Alors, pourquoi ces gens-là cherchent à tout prix à démontrer que la Bible n'est pas vraie? Si elle n'est pas vraie, les chrétiens s'en rendront compte tout simplement un jour ou l'autre. C'est parce que ce sont des instruments du diable pour casser la parole de Dieu. Parce que le diable connaît son vrai ennemi. C'est ça, bien-aimé. Donc toutes ces fausses nouvelles-là, ces fausses découvertes semblant contredire la Bible, Da Vinci Code, tout ça, c'est faux. Et vous savez que dès la première église, ils ont connu ces attaques-là. Ce n'est pas nouveau. Ils ont connu les mêmes attaques, mais nous ne lisons pas l'histoire, mais il y a toujours eu, chaque siècle, une sorte de fausse découverte pour dire que, Jésus n'a pas existé, telle chose a été fausse. On a même l'exemple dans la Bible, hein? Les soldats ont été payés pour dire que les choses ne se sont pas passées telles que les chrétiens le disent. Ça a toujours existé, et les chrétiens, aujourd'hui, sont facilement déstabilisés. Même s'ils réalisent que Jésus vit en eux, mais il se laisse déstabiliser par ces fausses nouvelles, bien-aimés. Nous passons à d'autres attaques sournoises. C'est tout ce qui concerne les fausses doctrines. Maintenant, on va essayer de détailler. Dans beaucoup d'organisations dites chrétiennes, il y a des livres secondaires, soit au même niveau que la Bible, soit à un niveau très voisin de la Bible. Vous allez prendre les témoins de Jéhovah, ils ont un livre, ils appellent le livre de vie, quelque chose comme ça, qui est comme au même niveau que la Bible. Vous allez prendre les Mormons, ils ont le livre des Mormons, qui est au même niveau que la Bible. Vous allez prendre les catholiques, ils ont les livres de ceux qui ont écrit, ils appellent ça les livres des pères, qui est au même niveau que la Bible, sinon au-dessus même, parce que l'ordre du catholicisme, c'est le magistère, c'est l'interprétation du pape qui est au-dessus de toute autorité. Ensuite, les livres des pères, c'est-à-dire les premiers catholiques, et en troisième lieu, la Bible. Donc la Bible, tu ne dois la lire qu'en fonction de l'interprétation que le pape en donne. C'est ça. Alors, vous allez constater que dans beaucoup d'organisations dites chrétiennes, il y a un second livre, un livre secondaire. Ça peut paraître... Et en même temps, ces gens-là disent, nous aimons la Bible, nous utilisons la Bible. Mais ils ont un livre secondaire. Et quand vous vous approchez bien de ces organisations-là, vous vous rendez compte qu'ils s'occupent plus du livre secondaire que de la Bible elle-même. C'est une attaque sournoise contre la Bible. On écarte la Bible d'une manière intelligente. Vous allez voir les branhamistes, hein, ils utilisent la Bible. Mais quand vous vous approchez d'eux, vous réalisez qu'ils utilisent beaucoup plus ce qu'ils appellent le message, c'est-à-dire les prédications de Branham. Ça a beaucoup plus d'importance que la Bible elle-même. Ça sont des vraies attaques contre la Bible, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que vous allez voir, tous ces chrétiens, entre guillemets, qui sont dans ces organisations, ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils suivent autre chose. Ils ne suivent pas la Bible. Et les gens vont dire, mais oui, mais les évangéliques n'ont pas de livres secondaires. Ben si. Allez sur Internet, vous allez voir tous les livres qui sont proposés. Les parler en langue aujourd'hui. La Pentecôte aujourd'hui. Pour savoir jeûner et prier. Je ne suis pas contre les livres, mais aujourd'hui, il y a une politique dans les milieux évangéliques qui amène les gens à s'attacher beaucoup plus aux livres qu'à la Bible elle-même. C'est la même chose. C'est très dangereux parce que finalement, on va plus écouter autre chose et on t'écarte petit à petit de la vraie vérité d'une manière sournoise. C'est très dangereux parce que les attaques directes, on les voit. On comprend en Chine, ben, on confisque les Bibles. Un chrétien dans ces conditions-là se dit, mais tiens, si on confisque les Bibles, c'est que la Bible est vraiment la vérité. Au contraire, ça le renforce. Il dit, mais non, mais j'ai de l'or dans mes mains. Mais quelqu'un qui est dans une église qui favorise le nouveau livre du pasteur, le deuxième livre du pasteur, qui favorise ça. Après une prédication, le pasteur il présente un livre, Les sept secrets de la puissance. Donc, comme tout le monde veut la puissance, les sept secrets sont là-bas. On achète, on va acheter le livre. Lire pour trouver la puissance. Or, la Bible est claire. Celui qui croit en Jésus. Ah, j'aime beaucoup ce passage-là. Jean 7, 37 à 39. La Bible dit qu'à la fin de la fête, Jésus-Christ s'est levé. Il a dit, quiconque a soif, qu'il vienne. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il aura la puissance comme des fleuves d'eau vive. Mais ces gens-là disent, le livre, sept secrets d'une vraie vie de puissance. Huit clés pour comprendre les dons du Saint-Esprit. 15 solution pour tel problème, bien-aimé. Pour un mariage réussi. Non, pour un mariage réussi, lis les conseils de Paul dans 1 Corinthiens 7. Alléluia. On n'est pas contre les livres. On est contre le fait qu'ils prennent beaucoup plus d'importance que Dieu lui-même, que la parole de Dieu lui-même. Nous devons lire les livres à la lumière de la Bible. Et quand Dieu nous pousse à les lire, Parce qu'on ne doit pas lire parce que quelqu'un nous a proposé, quand Dieu nous pousse à lire, et non pas lire la Bible à la lumière des livres qu'on a lus, quoi. Ça, c'est très dangereux. Tu vas commencer à lire la Bible, en réalité, tu ne lis pas. Tu veux retrouver ce que tu as lu dans un livre. Non. Ça, ce sont les attaques sournoises, les livres secondaires ou complémentaires. Les Mormons m'ont dit un jour, non, notre livre est complémentaire à la Bible, donc la Bible n'est pas suffisante. Puisque la Bible n'est pas tout dit, n'a pas tout dit, entre autres le fait que Jésus serait, pendant qu'il était mort les 3 jours là, il est sorti en Amérique. Il a prêché à un peuple là-bas. C'est ce que disent les Mormons dans leur livre de Mormons. Donc c'est pourquoi le livre de Mormons, ça complète, frère, ça complète la Bible. Moi, j'ai dit non, la Bible est suffisante, c'est écrit. Il ne faut rien y ajouter, rien enlever. Tout ça, ce sont des choses sournoises donc, qui affaiblissent l'autorité de la Bible au milieu des chrétiens. Nous devons vraiment prendre conscience de cela, de ces livres secondaires ou dit complémentaire. Je laisse le changement de... Non, je continue à parler. Ok. Il y a aussi les doctrines sur les nouveaux apôtres. Donc, ou bien apôtres fondamentaux. Donc, comme j'ai lu sur un site internet, il y a des apôtres fondamentaux. Donc, eux, ils se considèrent comme ayant la même autorité que Paul, que Pierre... En tout, nous on ne dit pas que Pierre et Paul sont les gens sont les plus grands apôtres ou bien qui ont autorité plus que tout serviteur de Dieu. On ne dit pas ça. Mais on dit une chose, c'est le seul, les écrivains de la Bible, à avoir reçu l'autorité scripturaire. Ça veut dire qu'ils ont reçu d'écrire des choses que Dieu allait nous imposer, nous donner, comme étant sa parole à lui directe. Moi, aujourd'hui, je peux prêcher, je peux écrire un livre, ça reste quelque chose qui doit se soumettre à ce que Pierre a écrit, à ce que Paul a écrit, à ce que tous ces gens-là ont écrit. On ne peut pas dire, puisque je suis pasteur, je suis apôtre, moi aussi je peux écrire un livre, on doit le considérer au même niveau que l'Épître aux Corinthiens, jamais. Et il y a un verset qui nous montre cela clairement, dans Apocalypse 21, 14. C'est dit que l'épouse, la nouvelle Jérusalem, avait 12 fondements. Et c'est le nom des 12 apôtres de l'agneau. C'est écrit clairement. Donc ce n'est pas le nom de tous les chrétiens. Il n'y a que 12 fondements. La nouvelle Jérusalem, c'est le nom des 12 apôtres de l'agneau. Donc, puisqu'on appelle aussi l'Église l'épouse, et que les 12 fondements de la nouvelle Jérusalem, qui est appelée aussi l'épouse, c'est les 12 apôtres, ça veut dire que c'est eux qui soutiennent l'Église en réalité. Nous sommes fondés, Éphésiens 2:20 le dit, sur les fondements des apôtres et des prophètes. Alors donc, ensuite, eux, ils sont fondés sur Jésus. Donc, il ne peut pas y avoir d'autres fondements. C'est les 12 là. Maintenant, après, nous, on peut se rajouter dessus. Et d'ailleurs, Paul le dit dans 1 Corinthiens 3, il n'y a qu'un seul fondement, Jésus. Lui, Paul, il a bâti dans ce fondement-là comme un sage architecte. Mais quelqu'un qui vient bâtir dessus, il faut qu'il bâtisse selon les règles. Sinon, son œuvre sera consumée. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'il y ait de nouveaux apôtres qui écrivent des choses ayant la même valeur, la même plutôt autorité d'infaillibilité que les livres qui sont dans la Bible. Il n'y en a pas. Tout ce qu'on peut écrire aujourd'hui n'a pas cette autorité-là. Seuls les écrits de la Bible ont cette autorité. Donc aujourd'hui aux États-Unis, il s'appelle les nouveaux apôtres de la réformation apostolique, les Peter Wagner, je cite son nom parce qu'ils font des choses graves, Peter Wagner et son club. Donc, ils prétendent que c'est eux les apôtres fondamentaux et tout le monde doit se rattacher à eux. Et donc, leurs écrits donc, auraient la même importance que les écrits de Paul et les autres. Non, bien-aimés. Les écrits de Paul qui sont dans la Bible, les écrits de Pierre qui sont dans la Bible ont plus d'importance que tout autre écrit qu'on peut écrire plus tard. C'est eux, ces gens-là, leurs écrits sont notre fondation, notre fondement. Donc attention à écouter ces nouvelle doctrine, réformation apostolique, c'est très très dangereux. Et c'est des gens, vous entendez souvent leur phrase, la phrase suivante chez eux, mais l'apôtre Paul, bon, il faut savoir que il faut pas tout prendre quoi. Au premier degré, hein, donc l'apôtre Paul, il faut pas tout prendre au premier degré parce que bon, comment ça, bien-aimé? C'est Jésus qui a dit à Ananias, il a dit, cet homme-là, je l'ai choisi pour apporter la lumière aux hommes. C'est Jésus qui a dit ça de Paul. Donc les écrits de Paul, c'est le commandement du Seigneur. Les écrits des apôtres, Jésus a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, allez enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, et il dit encore dans sa parole, celui qui vous écoute, m'écoute. Bien-aimé, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc celui qui écoute les apôtres de Jésus, écoute Jésus lui-même. Donc nous devons pas faire des amalgames, croire que ce que fait, ce que font aujourd'hui les livres d'aujourd'hui ou les écrits d'aujourd'hui peuvent avoir la même importance que la Bible. Non, ça c'est toujours pour diminuer l'autorité de la Bible. On va écrire autre chose, dire, ben non, on a la même importance. Or, étant deux choses différentes, on est obligé de choisir. Et les gens vont choisir toujours la personne qu'ils voient, quoi. C'est ça le problème. Ils vont choisir l'apôtre qu'ils voient, ils vont négliger la Bible parce qu'ils ne voient pas Dieu tenir la Bible, quoi. Malheureusement. Les attaques sournoises contre la Bible, c'est la chute de ceux qui prêchent la Bible ou se revendiquent être de la Bible. À chaque fois que toi, tu te comportes mal, alors que tu prêches la Bible, alors que tu revendiques être chrétien, ben, ça diminue l'importance de la Bible. Ce sont des attaques sournoises. Le diable va tout faire pour t'attaquer. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'il n'y a que les pasteurs qui peuvent être attaqués. Non, nous tous, tant que tu te revendiques chrétien, tu seras attaqué pour que ton témoignage autour de toi soit sali. Et quand ton témoignage autour de toi est sali, les gens vont négliger le livre qui t'a changé, qui t'a amené à être sauvé. Ils vont dire, ah oui, mais regarde, ils suivent la Bible, mais regarde comment ils se comportent. À moi, ces histoires-là de Bible, je n'en veux plus. Donc, on déprécie la valeur de la Bible par nos chutes vis-à-vis du péché, vis-à-vis du modèle que la Bible nous a communiqué. Pensons en cela, que nous avons une grande responsabilité. Quand tu te dis chrétien, tu as une grande responsabilité. À chaque fois que tu ne montres pas l'exemple, tu décourages quelqu'un à lire la Bible. Parce qu'il se dit, mais si lui, il a lu la Bible, il est ce qu'il est. À quoi sert que moi, je lise la Bible? C'est des attaques sournoises contre la Bible. Les attaques sournoises contre la Bible, il y a des gens qui disent la Bible est très compliquée, c'est difficile à interpréter, donc ce n'est pas la peine de la lire. Et longtemps, le catholicisme a pratiqué cela. Même en France, je connais des gens qui, dans les années 50, ils n'avaient pas le droit de lire la Bible, ils étaient catholiques. Longtemps, le catholicisme a pratiqué ça pour éloigner les gens de la parole de Dieu. Même Luther, qui a commencé le protestantisme, c'était un prêtre catholique, c'était un moine catholique. Il n'avait pas lu la Bible, docteur. Et un jour, il a lu la Bible, il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur. Totalement, à 100%. C'est comme ça qu'il a voulu changer les choses en interne, ça n'a pas marché. Et il est sorti du catholicisme pour prêcher la Bible telle que lui, il a voyé. Et les catholiques disent, mais non, mais c'est difficile à interpréter. Il faut que ce soit des gens spéciaux qui interprètent cela et on peut comprendre. Bien-aimés, nous ne disons pas qu'il n'y a pas des gens comme les apôtres, les docteurs, les pasteurs pour expliquer aux autres. Il y en a, ils sont là. Mais bien-aimés, il faut savoir que ce que nous devons comprendre d'essentiel est accessible à nous tous. Que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui a un diplôme de grec et de latin ou d'hébreu pour nous l'expliquer clairement. Donc Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Ça, il faut comprendre. L'homme est pécheur, il n'y a qu'à voir autour de nous. Donc on n'a pas besoin de docteurs compliqués pour nous expliquer ça. Après, nous avons besoin des apôtres et des docteurs pour nous amener dans la profondeur, dans la maturité. C'est vrai. Mais nous devons savoir que l'essentiel est accessible à tous les chrétiens. Ne pas voler, ne pas mentir, c'est accessible à nous tous. On peut comprendre ces choses-là. Donc le problème de l'interprétation est un faux problème. Puisque l'essentiel, et c'est l'essentiel qui sauve, c'est la base. Comprendre l'œuvre de Jésus, comprendre l'état de l'homme, comprendre ce que Jésus est venu faire pour nous amener au ciel. Ça, c'est l'essentiel et ça, c'est accessible. Gloire à Dieu. Maintenant, tout ce qui peut nous amener à la maturité, à la profondeur, le Seigneur va veiller de sorte qu'en les lisant, si on a des complications, eh bien, on va se référer à nos pasteurs, à nos apôtres qui vont nous aider. Et il va nous donner les bergers qu'il faut, qui nous aideront. Donc on ne peut pas, on ne doit pas nous empêcher de lire la Bible. Au contraire, nous devons lire la Bible. C'est ainsi qu'on peut avoir des questions aussi à poser et grandir. La Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc au contraire, nous devons lire la Bible parce qu'on sera jugé pour l'avoir eu et ne l'avoir pas lu. Parce que la Bible dit dans ce verset-là d'Osée 4:6 « Parce que tu as refusé la connaissance ». En quelque sorte, en ne lisant pas la Bible, eh bien, tu refuses la connaissance. Voilà. Nous allons laisser le changement de cassette et puis... D'accord. Ok. Nous prenons une autre attaque sournoise. C'est la relativisation. Toutes les phrases que vous allez entendre pour dire « Non, on dit le divorce... Ce n'est pas de Dieu. Il y a des gens qui viendront avec les phrases. Mais non, il faut comprendre le contexte de l'époque. Il faut comprendre le contexte de l'époque. On est d'accord que l'interprétation demande aussi qu'on comprenne le contexte de l'époque. Mais on ne va pas mettre le contexte de l'époque à toutes les sauces. Il y a des choses qui sont claires. Il y a des choses qui sont claires. Et les gens vont chercher à relativiser les choses. Nous comprenons. Tu viens d'une famille difficile. Nous comprenons. Non. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que l'homme est pécheur. Il doit se repentir pour être sauvé. Et Jésus-Christ peut lui donner ce salut-là total. Total. Attention à la relativisation. Commencez à dire, oui, Paul, faut comprendre parce qu'il n'était pas marié. Non, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Attention aussi à tout ce qui est manque d'application. Toutes les gens qui vont dire, écoutez, on appliquera tout comme il faut au ciel, quoi. Sur la terre, bon, on est encore dans la chair. Ça, c'est dangereux. C'est des gens après qui relativisent la Bible. Donc, quand tu lis, tu dis, bon, ça c'est très dur. J'appliquerai à la résurrection. Or, à la résurrection, tu te retrouves en enfer. Tu ne peux plus appliquer ça. C'est trop tard, bien-aimé. Non, il faut appliquer ici sur terre par la puissance que le Saint-Esprit donne. Amen. Dieu donne la puissance du Saint-Esprit pour qu'on puisse appliquer la parole. Commence à dire, ben tiens, bon là, on est encore dans la chair. Bien-aimé, cette chair-là ben, t'amènera en enfer. Réveillons-nous, bien-aimés. Et globalement, c'est tout ce qui est mode. Fausse doctrine chrétienne, c'est les attaques sournoises pour baisser l'évangile. Nous qui sommes chrétiens, ça fait un moment, eh bien, nous avons vécu toutes sortes de modes. Mode du parler en langue. Mode que les gens tombent quand on prie pour eux. Mode des prophéties. Mode de l'enseignement. À un moment, c'était l'enseignement. L'enseignement. Donc, c'était toujours des modes bien-aimés. Mode des livres. C'était toujours... Oh, tu as appris, il y a un livre là qui est sorti là. Bon, c'est vrai que quand on sort de ces choses-là, on pense que c'est fini. Non, ça ne finit pas, ça continue ailleurs. Mode de la danse. Danse prophétique. Donc les gens qui vont faire un peu, qui mettent des collants. Oh, David était nu. Oh, bien-aimé. On a vécu toutes ces modes-là. À chaque fois que les modes sortent, la mode que l'or qui tombe, quand on prêche, il y a l'or qui tombe. Il y a même un frère, je ne sais pas si je peux lui dire frère aujourd'hui, mais en se fâchant, il y a eu de l'or sur son front. Moi, je me suis dit, mais tiens, on m'a raconté une histoire comme ça. C'était un ancien d'une église. Il se fâche contre quelqu'un, après il y a de l'or. Alors moi, j'ai dit, bon, finalement, si c'est fâché, c'est ça qui fait descendre l'or de Dieu. Bon, donc là, c'est le désordre maintenant. Les gens vont commencer à se fâcher, à se taper dessus, quoi. Donc, non, bien-aimé, c'est des modes. Vous pensez que cet ancien-là, quand il voit l'or, quand il s'est fâché, il s'est dit, voilà, Dieu m'exauce là. J'ai bien fait de me fâcher. Donc, il n'applique plus la Bible. La Bible réprouve la colère. Lui, il va suivre la colère, puisqu'il est dans une mode. Il y a des gens qui vont être dans le péché, puisqu'il parle en langue. Il est dans un milieu où le parlant en langue est mis sur un piédestal. Donc, il ne compte plus tous ses péchés qu'il commet. Juste qu'il parle en langue, c'est vrai, il est accepté. La mode va diminuer l'importance de la Bible. Il y a des gens qui vont être là, dans une école biblique, et pendant la récréation, il lit de mauvais livres, il fait des coups bas. Mais ça ne compte pas du moment qu'il est là, il est dans la mode enseignement, du moment qu'il exauce cette mode-là. Il est dans un milieu où celui qui est enseigné, c'est celui qui est grand. Et donc, on néglige les autres vérités de la Bible. Les modes sont dangereuses. Elles attaquent la Bible. Dans la Bible, il y a tout. On doit prendre tout. Et c'est Jésus, la parole de Dieu. Donc, si tu veux vraiment être à la mode, être à la page, il faut que tu t'intéresses à Jésus. Totalement, 100%. Or, c'est Jésus la parole, toute la parole. C'est très important. Attention aux modes. Il y a trop de modes, bien-aimés. Mais la vérité, c'est la Bible. Total. J'avais oublié de faire lire le verset d'amour pour aujourd'hui. C'est dans Jude 3. Après, nous passerons aux questions. Jude 3. La Bible dit ceci. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Amen. La foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes, c'est-à-dire la doctrine. L'enseignement, parce que la foi peut symboliser l'assurance des choses qu'on espère, mais la foi peut symboliser aussi, quand on dit « quelle est ta foi, quoi ? Tu crois en quoi ?» C'est la doctrine, l'enseignement. Eh bien, la doctrine qui a été transmise au saints une fois pour toutes. On a reçu la parole de Dieu une fois pour toutes. Il n'y a pas d'autre à ajouter. Il n'y a qu'à répéter ce qui a été donné avec l'éclairage du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Nous passons aux questions.